Est-ce que ça va aller comme ça? Bon. Alors, je suis donc chargé de vous parler de la liturgie à partir, essentiellement à partir de la constitution de la Sainte Liturgie du Concile Vatican II. Il est bien évident qu'en trois quarts d'heure, il y a 180 articles dans cette constitution, ou quelque chose comme ça. Je ne vais pas pouvoir tout aborder. Je voudrais aborder, je crois, me semble-t-il, ce qui est l'essentiel. C'est-à-dire, finalement, je ne vais pas dépasser beaucoup le début de la constitution. Je ne vais pas rentrer dans le concret du réel vécu, comme disait avec humour un collègue. Ce que je vais chercher à faire, quitte à me répéter, d'ailleurs, vous allez le voir, c'est à fonder la liturgie, et particulièrement la messe, sur la foi de l'Église et sur ce que représente prier avec le Christ, s'offrir au Père, faire de sa vie une offrande avec l'offrande du Christ. Alors, la constitution de la Sainte Liturgie a été la première tâche accomplie par le Concile Vatican II. Elle a été publiée le 4 décembre 1963. Je vous rappelle, pour le cas où ça serait utile, qu'il y a quatre constitutions dans le Concile. Ce sont les textes les plus importants. Ils sont donc au nombre de quatre. La Sainte Liturgie, tout a commencé par là, des Sacra Liturgia, l'Église, Lumen Gentium, la Révélation Divine, Dei Verbum, et l'Église dans le monde, Gaudium et Spes. Il faut y ajouter 9 décrets et 3 déclarations, je ne commente pas. Ce sont d'autres textes conciliaires qui sont seconds par rapport à ces 4-là, mais qui ne sont pas pour autant secondaires. C'est donc par la liturgie que se sont ouverts les travaux des pères conciliaires, ce qui est significatif à la fois d'une certaine urgence et aussi d'une priorité. C'était important, c'était urgent, ils ont commencé par là. J'ai dit 180 tout à l'heure, j'exagère un peu, c'est 130. 130 paragraphes et à peu près le même nombre de pages. Alors on en restera dans les débuts qui fondent les soubassements sur lesquels la liturgie est fondée. J'aborderai donc ce qui m'a paru le plus important dans la Constitution, les principes généraux, c'est ce que je suis en train de vous dire, d'abord sur quoi est fondée la liturgie, sur quelle intuition de l'Église, sur quelle réalité profonde. Les principes généraux, c'est capital pour comprendre l'esprit de la liturgie, et puis aussi, je prendrai aussi, bien sûr, dans le mystère de l'Eucharistie, puisque dans la liturgie, c'est quand même central et premier. J'ajouterai quelques remarques personnelles. Essayons donc, pour commencer, dans un premier temps, de poser les fondements, les racines dans la foi, pour comprendre le sens de la liturgie et donc de commencer par les principes généraux. Le style du concile est extrêmement dense et malgré tout, j'ai encore fait des choix et j'ai encore résumé. Donc, en principe, chaque mot est important, surtout quand je ferai des citations. Tout part, et c'est la première ligne, les deux premières lignes en tout cas, du texte du Concile. Comment est-ce que les pères commencent ? Par ceci. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà le fondement essentiel sur lequel on démarre. C'est une citation de la première épître de Tite, chapitre 2, verset 4. Et vous voyez qu'on est tout de suite, on est dans l'universalité. On ne commence pas par dire, il faut être plus pieux, il faut être plus unanime, il faut être plus... Non, voilà. Dieu Ça part de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc nous sommes concernés, mais toute l'humanité est concernée également. Nous, dans l'humanité. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Ce fameux principe, enfin cette fameuse notion de salut, qui n'est pas toujours très bien comprise par les gens. Qu'est-ce à dire le salut ? Sauvé, sauvé de quoi ? Eh bien, non pas des petits ennuis de la vie quotidienne, petits et grands, comme un certain nombre le croient encore. Sauvé de deux réalités, le péché et la mort. Un de mes plus grands maîtres à penser, le père Martelet, jésuite, dit que par nature, l'homme est peccable et mortel. Le salut sera donc d'être sauvé par Dieu de ces deux limites que l'homme ne peut pas réduire par lui-même. Impossible de supprimer son propre péché, on s'en rend compte tous les jours. Impossible de se sauver de la mort, qui inéluctablement surviendra pour chacun d'entre nous. Alors, comment est-ce que cela s'est passé ? Eh bien, le Concile nous dit comment est-ce que ce salut, dans sa plénitude, il avait commencé avant, je ne reviens pas sur l'Ancien Testament et toutes les annonces qui y sont faites, le Concile donne ce départ du salut en citant la lettre aux Hébreux, « Lorsque vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, oint par l'Esprit Saint. » Le début de la foi, bien sûr, chrétienne, et le début de la liturgie, c'est Jésus-Christ, Dieu fait homme au milieu de nous. J'ajoute, « Afin que l'homme soit rendu capable, par la grâce de Dieu, de recevoir le pardon, et parce qu'il est pardonné, d'accéder au partage de la vie même de son Créateur, dès cette terre de manière partielle, et jusque dans la vie éternelle, où nous le verrons face à face. » Bon, j'aurais dû vous prévenir tout de suite que dans ce que je vais dire là, ce soir, on n'est pas au niveau de Lucky Luke. Hein. C'est plus difficile à recevoir, mais c'est fondamental pour comprendre pourquoi on est à la liturgie, pourquoi on est à la messe. Je continue. C'est le Christ dans son humanité et l'unité de sa personne qui fut et est l'instrument de ce salut. Bon, je résume ici un paragraphe du Concile. Cette œuvre, il l'a compris principalement par le mystère pascal, même si tout l'Évangile nous présente sa manière d'aimer, sa manière de sauver, sa manière de pardonner, sa manière de nous diriger vers la vie éternelle. Le centre, le cœur absolu du salut qu'il nous apporte, c'est son mystère pascal, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. En mourant, il a détruit la mort, en ressuscitant, il a restauré la vie. Il faudrait relire tout saint Paul. Et saint Jean aussi d'ailleurs. Et le Concile ajoute cette phrase essentielle, « Du côté du Christ, endormi sur la croix, est né, voilà le premier vecteur important du salut sur terre et au niveau humain, du côté du Christ endormi sur la croix, est né l'admirable sacrement de l'Église tout entière. » Voilà, le premier des sacrements avec un immense S, c'est l'Église, dans la mesure où l'Église est signe pour le monde entier et pour tous les temps du salut que Dieu offre à tous les hommes. Rappelez-vous la première phrase. Et je cite toujours, « C'est ainsi que par le baptême, les hommes sont greffés sur le mystère pascal du Christ, morts avec lui et ressuscités avec lui, ils deviennent pour Dieu des fils, alors là j'ai souligné la phrase suivante, capables d'être désormais ces vrais adorateurs que cherche le Père. La liturgie est d'abord une adoration et une offrande. C'est une citation de Jean 4, 23, vous savez, là, Jésus à la Samaritaine. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La liturgie, même si elle n'est pas seule à entrer dans ce rôle, la liturgie est celle qui nous aide à rendre louange au Père en esprit et en vérité, et non pas par des actes extérieurs. Et l'acte principal du salut étant le mystère pascal, étant bien entendu le Christ. Donc le Christ est là dans toute liturgie, et bien entendu en particulier dans la messe. Je saute et je lis toujours un peu plus loin, une constatation historique. Jamais depuis la Pentecôte, l'Église n'a omis de se réunir pour célébrer ce mystère pascal. Donc vous voyez comment le Concile part donc du salut qui est d'être libéré du péché et participant de la vie de Dieu, participant de la vie de quelqu'un, on connaît ce que c'est, vous les gens mariés en particulier, mais pas seulement. Hein. Partager la vie de quelqu'un, c'est le summum de l'amour. Et Dieu nous aime au point qu'il veut partager sa vie avec nous. Et pas seulement plus tard dans le ciel, dans le paradis, comme utilisera le mot lui-même Jésus, hein, mais dès maintenant, même si c'est bien sûr de manière partielle. Donc, jamais depuis la Pentecôte, l'Église n'a omis de se réunir pour célébrer ce mystère pascal, c'est-à-dire la victoire de Dieu sur le péché et sur la mort concernant ses enfants, concernant l'humanité.
Père Jean-Jacques, veuillez m'excuser. Est-ce qu'il vous serait possible, quand vous citez Vatican II, de dire quel chapitre?
Ah, alors là, je ne me suis pas préparé à ça.
C'est pas grave.
Mais je tâcherai de le faire, je le fais dans certains endroits. Hein. Là, vous savez, vous êtes dans les deux premières pages. Hein. Ne vous inquiétez pas, on ne les dépassera d'ailleurs pas beaucoup. Je vous le dis tout de suite.
Merci.
Voilà, je me prépare. Alors, comment est-ce que l'Église, dès la première Pentecôte, n'a jamais omis de se réunir pour célébrer ce mystère pascal, en lisant les Écritures, vous voyez où on va arriver, et en célébrant l'Eucharistie, dans lesquelles sont rendus présents la victoire de la mort du Seigneur et la louange au Père dans le Christ Jésus par la vertu de l'Esprit Saint. Donc, vous voyez comment hein, cette phrase est authentiquement trinitaire tout de suite. Hein. La liturgie, c'est d'abord la louange du Christ à son Père qui emporte l'humanité tout entière par son Esprit qui est donné aux hommes. Vous voyez comment le Concile donc plonge la liturgie de l'Église, je le répète encore une fois, directement dans le mystère pascal du Christ. Alors on comprend mieux maintenant la parole du Seigneur, mais vous voyez que ça lui donne une autre portée quand il dit « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Ce n'est pas du genre « Bon, tâchez d'être un peu pieux, quoi, je suis venu au milieu de vous, tâchez de vous rappeler un peu ce que j'ai fait, et puis ça vous aidera, faites un petit effort, venez à la messe ». Soyez gentils, faites-moi plaisir. C'est pas ça. C'est infiniment plus que ça. C'est « Je suis mort pour vous et ressuscité une seule fois, mais cet événement sera pour vous au présent de vos vies, toutes les fois où vous serez réunis autour du pain et du vin. » Alors ça, c'est mon propre résumé, mais je m'en suis évidemment servi du texte. Sur ces fondements, sur ces colonnes de la foi, quelques phrases, alors j'y viens, Marie-Hélène, j'y viens, quelques phrases choisies dans le chapitre 7 qui en développent les conséquences. Ne vous inquiétez pas, avant il y a 3 pages. Même pas, 2 pages et demie. Voilà, donc là je lis directement. Hein. Ah, d'abord, oui, j'allais sauter quelque chose d'important. Là, écoutez bien, on est au chapitre 6 d'abord. En célébrant l'Eucharistie dans laquelle sont rendus présents la victoire et le triomphe de sa mort, voilà comment donc on rend gloire à Dieu, et en rendant en même temps grâce à Dieu pour son don ineffable dans le Christ Jésus, pour la louange de sa gloire. Et le mot louange revient tout le temps. On est en état d'action de grâce et de louange dans la liturgie, et tout particulièrement dans la messe. Je continue à lire, alors au chapitre 7. L'accomplissement d'une si grande œuvre, le Christ est toujours là auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là présent dans le sacrifice de la messe et dans la personne du ministre, et au plus haut point sous les espèces eucharistiques. Il est là présent par sa vertu dans les sacrements, au point que lorsque quelqu'un baptise, c'est le Christ lui-même qui baptise. Il est là présent dans sa parole, il est là présent lorsque l'Église prie et chante les psaumes, mettant en œuvre la parole du Seigneur, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Effectivement, pour l'accomplissement de cette grande œuvre, le Christ s'associe toujours l'Église, son épouse bien-aimée, qui l'invoque comme son Seigneur et qui passe par lui pour rendre un culte au Père éternel. Nous y revoilà encore. Et ça me rappelle une phrase de mon ami Raymond Devos, essayant de faire une démonstration à ceux qui l'écoutent. « Mesdames et messieurs, je ne sais pas comment vous convaincre. Voilà. » Bon. Alors, c'est pour ça que vous m'entendrez me répéter de manière différente, pour essayer de vous convaincre. Voyez quelle force et quel contenu dans ces textes et de quelle façon, donc, il rappelle des paroles de Jésus que je vais citer tout à l'heure. Mais avant, j'ai mis un énorme trait bleu tout autour de ce minuscule paragraphe qui résume ce que je viens de vous dire jusqu'à présent et qui annonce la suite. Par suite, toute célébration liturgique en tant qu'œuvre du Christ prêtre et de son corps qui est l'Église, vous voyez la conjonction toujours, est l'action sacrée par excellence dont nulle autre action de l'Église ne peut atteindre l'efficacité au même titre et au même degré. Nous voilà prévenus. Ça n'est pas une évidence pour tout le monde. Quand ma cousine Evelyne me dit « Mais enfin, la prière et la messe, ça sert à quoi ? Si au moins vous alliez visiter les pauvres, relever ceux qui sont couchés dans la rue, donner un peu d'argent à ceux qui n'en ont plus, je comprendrais, mais la messe et la prière, c'est d'une baptisée qu'il s'agit. Hein ?» Alors donc, ces paroles du Seigneur qui sont mises en valeur ici, « Nul ne va vers le Père sans passer par moi. » Vous voyez, hein, la louange du Christ au Père, dans laquelle il nous associe. « Nul ne va vers le Père sans passer par moi. » Et aussi, Jean 7, 37, 39. Vous vous rappelez bien de cela. Hein. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. » Comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint, l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus. Si nous croyons, nous célébrons. Si nous célébrons, nous nous offrons. Nous offrons surtout le Christ, mais nous nous offrons avec lui. Et donc, nous puisons au cœur du Christ des sources d'eau vive. les sources de l'Esprit que le Seigneur veut partager avec nous. Autre parole très importante aussi du Seigneur, qui va aussi dans ce sens-là, tirée de sa prière le soir du Jeudi Saint, « Père, je veux que ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. » Quand vous reprenez le sens de la messe, qui est l'offrande du Christ à son Père au présent, hein, on l'a vu dès le début, hein, il veut que nous soyons avec lui. Il veut que toute son Église s'offre avec lui, et non seulement lui, non seulement nous, mais l'humanité tout entière que nous portons. On va y revenir. Si nous pensons, et c'est la foi, que le Christ est louange éternelle du Père, il faudrait relire tout saint Jean, ce Christ nous veut louange avec lui. Non seulement par la liturgie, mais par ce qu'elle commandera après dans notre vie de tous les jours. La liturgie inaugure donc déjà cette communion de manière terrestre et donc partielle, mais déjà très réelle, comme la Constitution nous le rappelle par cette phrase, encore une citation, Marie-Hélène, c'est au début du 8. « Dans la liturgie terrestre, nous participons par un avant-goût à cette liturgie céleste qui se célèbre dans la Sainte Cité de Jérusalem, à laquelle nous tendons comme des voyageurs, où le Christ siège à la droite de Dieu. » Souvenez-vous des textes, du texte de l'Apocalypse en particulier, du jour de la Toussaint. Des millions et des millions, une foule innombrable qui criait, qui chantait. Bon, voilà la liturgie céleste vue avec nos pauvres mots. J'ose une image. Je continue à appuyer sur le même point. Dans la liturgie et essentiellement dans la messe, l'Esprit Saint aspire son Église. On retrouve l'Esprit là. Hein ? Aspire son Église, nous aspire avec le Christ pour nous offrir avec lui au Père, avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous portons, de joie, d'efforts, de peine, de dons de nous-mêmes, sans oublier toutes nos intentions pour nos frères, les proches et les lointains, et la vie du monde entier. Relisez une prière eucharistique, vous verrez que toutes ces choses-là sont nommées et que toutes ces choses-là forment, hein, l'offrande de l'Église, et l'offrande de l'Église, bien sûr, avec en son cœur le Christ lui-même. Nous sommes vraiment ce peuple de prêtres dont parle saint Paul. Quand on dit peuple de prêtres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on fait les gestes nous-mêmes du célébrant. Ça veut dire qu'on offre. Être prêtre, c'est prier pour, c'est porter vers Dieu. Ça a toujours été comme ça dans l'humanité. Même quand c'était dans d'autres religions, c'est intercéder entre le peuple et Dieu. Et s'élever vers Dieu autant que possible. Voilà. Nous sommes vraiment ce peuple de prêtres dont parle saint Paul, unis au Christ prêtre comme le corps uni à la tête, saint Paul. Nous sommes vraiment ce corps du Christ malgré nos limites et malgré nos petitesses. Et une dernière fois, une autre manière de le dire. Soyez tranquilles, c'est la dernière, mais je veux que ça rentre. Le Christ a fait de toute sa vie et de sa mort une offrande d'amour au Père. Dans l'Eucharistie, il nous emporte dans cette offrande. Et il veut d'ailleurs emporter l'humanité tout entière. Rappelez-vous la première phrase. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Évidemment, tout cela s'exprime en plénitude dans la prière eucharistique de la messe. Pas uniquement, parce que ça s'exprime aussi dans chaque sacrement. Mais ça, je n'ai pas du tout abordé ces choses-là, on ne peut pas tout faire. Donc, dans la prière eucharistique, quelle qu'elle soit, il y en a plusieurs, qui commence avec la préface, je vous rappelle ce que c'est, la prière eucharistique, ça commence avec la préface pour culminer dans la doxologie dont nous sommes alors tous en communion avec l'Église tout entière. Dans... Lorsque dans les mains du prêtre, lorsqu'il élève le corps et le sang du Christ, en disant « Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. » Notre supérieur de séminaire des vocations d'Élie à Morsan disait « Quand on a dit ça et qu'on l'a vécu, vous savez, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre, de plus important, on n'a plus qu'à partir. » Il se reprend, il dit « Ah non, il faut quand même communier. » Hein ? Mais, enfin, ça nous dit quelque chose, comme disait l'autre, ça nous dit quelque chose hein, du moment essentiel. Pour moi, c'est le point culminant de la messe. C'est le moment où vraiment l'amen que nous allons dire, ben, vaut mieux que ça ne soit pas. Parce que ça, c'est un non-sens. C'est vraiment un non-sens. Là, un autre prêtre disait, il ne devrait plus y avoir, après cet amen, un seul vitrail intact dans l'Église. Hein, tellement le amen. Et j'aimais bien quand le père Antoine nous avait proposé, un peu sous ma proposition d'ailleurs, de chanter le amen solennel pendant tout le temps pascal. Qui reprend plus longtemps. Je ne vais pas vous le chanter ce soir, je suis trop enrhumé. Voilà. Bien sûr, encore faut-il que nous ayons pris pour nous cette phrase de la prière eucharistique numéro 3. Ce n'est qu'un exemple que je vous donne, il faudrait prendre tellement de choses. Père, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Si vous n'avez pas compris ce soir, que dans la messe, on s'offrait nous-mêmes et qu'on offrait aussi beaucoup plus que nous-mêmes, qu'on prenait, j'allais dire, le monde entier pour le présenter avec le Christ au Père, c'est que vraiment, ou je me suis mal exprimé, ou bien vous avez, il faut voir un orthophoniste. Voilà. Sous-entendu, en communion avec ton Fils, notre bon berger, qui ne cesse d'intercéder pour nous, afin que nos vies, la qualité de nos vies, deviennent de plus en plus dignes, être une offrande, encore faut-il qu'elle soit consistante, qu'elle représente quelque chose, et donc qu'elle soit une lutte contre le péché, et qu'elle soit l'offrande d'une vie la plus riche possible, selon chacun. Nous sommes tous différents, et notre vie offerte, eh bien, elle est offerte par différents modèles, par différentes choses, par différentes actions, par différents efforts. Hein. Que nos vies deviennent sacrées. Le sacrifice, hein, je vous le disais l'autre fois dans une homélie, le sacrifice, sacrum facere, faire du sacré, ça veut dire ça le sacrifice. Ça ne veut pas dire souffrir forcément horriblement. Ça veut dire faire de mon existence quelque chose de sacré que je puisse offrir avec le Christ. Et dans l'Église, c'est l'Église, bien entendu, qui est le vecteur de tout. Je ne peux pas le faire tout seul. C'est d'ailleurs ce Christ total, ce Christ qui veut nous transformer et nous faire toujours davantage avec lui une offrande sainte, c'est ce Christ que nous recevons un peu après à la communion, et qui va nous aider à vraiment réaliser notre vocation d'enfant de Dieu et de disciple. Nul ne peut être mon disciple s'il ne vient pas à ma suite. Celui qui veut vivre de sa foi, nous dit saint Paul, ou je ne sais plus lequel, saint Pierre, doit marcher là où lui a marché. Et c'est vrai pour aujourd'hui. C'est vrai pour nous tous. Je ne vois pas pourquoi ceux qui ont connu le Christ de visu seraient plus participants au mystère pascal que nous et au salut que nous ne le sommes. Dieu a voulu que ce mystère pascal, que ce salut soit étalé, je cherche mes mots, soit dans le monde entier et dans tous les temps. Voilà donc j'entends quand même l'objection possible. Tout cela, c'est bien beau, mais la liturgie n'est quand même pas le tout de la vie de l'Église. Eh bien, bien sûr que non. Mais pour l'instant, c'est d'elle qu'on parle ce soir. Alors, on ne va pas parler de tout. Mais les pères du Concile, qui étaient des fines mouches et qui prévoyaient bien l'objection, proclament cela d'ailleurs au chapitre 9 par les mots. Alors là, je vais lire maintenant. J'arrête de rabâcher, de redire d'une manière ou d'une autre. La liturgie ne remplit pas toute l'activité de l'Église. Car avant que les hommes puissent accéder à la liturgie, il est nécessaire qu'ils soient appelés à la foi et à la conversion. Vous voyez comment on étend maintenant la liturgie plus haut, plus largement que l'Église. Je saute un peu. C'est pourquoi l'Église annonce aux non-croyants la proclamation du salut, pour que tous les hommes connaissent le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, et pour qu'ils changent de conduite en faisant pénitence. Car si les chrétiens ne sont pas de ce monde, ils sont pourtant la lumière du monde, et il rend de gloire au Père devant les hommes. Toutefois, la liturgie est le sommet auquel tend l'action de l'Église, c'est le 10, et en même temps la source d'où découle toute sa vertu. C'est-à-dire que l'Eucharistie en particulier n'est pas seulement une montée de louange vers le Père, elle est aussi source de force et de descente de l'amour de Dieu sur ce monde pour que ce monde puisse changer et devenir ce que Dieu souhaite qu'il soit, c'est-à-dire une humanité de disciples capables de se tourner vers lui. Car les labeurs apostoliques visent à ce que tous devenus enfants de Dieu par la foi et le baptême se rassemblent, loue Dieu au milieu de l'Église, participe au sacrifice et mange la scène du Seigneur. Vous voyez l'aspect d'universalité qui était d'ailleurs cité dès le début. Quelques petites choses encore. Diverses. J'ai marqué, puis un peu pêle-mêle, des citations qui peuvent aussi vous intéresser et être très importantes. La liturgie est l'évolution, ou la liturgie est les changements. La liturgie est... Bon, vous voyez, vous connaissez l'objection. Nous voulons la messe de toujours. Ce qui est une immense bêtise, puisque la messe de toujours, ça n'existe pas. Même la plus ancienne, elle avait été précédée par d'autres. Donc, bon. Mais, bon, voilà comment le Concile réagit sur cette question. C'est au 21. Pour que le peuple chrétien obtienne plus sûrement les grâces abondantes dans la liturgie, la Sainte Mère Église veut travailler sérieusement à la restauration générale de la liturgie elle-même. Le Concile, avec bien sûr comme but aussi d'actualiser la liturgie. Car celle-ci comporte une partie immuable, celle qui est d'institution divine, et des parties sujettes aux changements qui peuvent varier au cours des âges, ou même le doivent, s'il s'y est introduit des éléments qui correspondent mal à la nature intime de la liturgie elle-même, ou si ces parties sont devenues inadaptées. Voilà. Comme quoi, il ne faut pas être sur les textes d'une manière fanatique. Un peu plus loin, au chapitre 22, alors, des choses très importantes. Attention, il va y avoir des dents qui vont grincer. Je vais les entendre d'ici, je le sens. Le gouvernement de la liturgie dépend uniquement de l'autorité de l'Église. C'est pourquoi absolument personne d'autre, même prêtre, ne peut de son propre chef ajouter, enlever ou changer quoi que ce soit dans la liturgie. Bon. Alors, il faudrait expliquer ce que ça veut dire. Il s'agit évidemment du cœur et du centre, des choses qui sont essentielles. Hein. Les chants peuvent changer, bien entendu. Hein. Les gestes peuvent changer. Le choix des préfaces et tout ça peut changer. Il y en a, je ne sais plus combien, des préfaces. 100 et quelques, tu ne te rappelles pas ? 100 et quelques, 120 préfaces, je crois, possibles. Bon, ce n'était pas possible, effectivement, avant la réforme liturgique. Mais, en tout cas, voilà. Moi, je vous donne les choses telles qu'elles sont citées. En particulier, cela concerne également le propre des chants. Kyrie, Gloria, Sanctus Agnus. Seigneur Dieu, tu as créé le monde, et tu Eh ben non. Là-dessus, le concile dit, ce n'est pas prévu dans la liturgie que on change comme ça les choses. Alors, sur la participation, alors des choses très importantes sur la participation, mais qu'il faut bien comprendre. 28. Dans les célébrations liturgiques, chacun, ministre ou fidèle, en s'acquittant de sa fonction, fera seulement et totalement ce qui lui revient en vertu de la nature de la chose et des normes liturgiques. Bon, il y a des choses qui sont, pour le prêtre uniquement, je citais la doxologie qui est quand même l'essentiel, la doxologie est pour les prêtres seuls, je dis les parce que quand il y a une concélébration. Par contre, les prêtres, quelquefois, se permettent de s'associer à ce que disent les laïcs, ce qui n'est pas non plus... Il y a un aller-retour. Par exemple, l'introduction à l'anamnèse peut être faite par le prêtre, proclamant le mystère de la foi. C'est les laïcs seuls, les fidèles seuls qui répondent « Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant ». Et si on faisait, nous prêtres, ce que nous devons faire, eh bien, on se tairait à ce moment-là et on vous écouterait. Eh oui, je sais que ça surprend même des prêtres, mais c'est comme ça. Hein ? Bon, alors, sauf que, quelquefois, il faut soutenir un peu. Hein. Dans une messe de semaine, si on prend une anamnèse pas trop connue, si le prêtre ne la chante pas avec le peuple, alors ça va devenir une catastrophe très rapide. Hein. Bon, voilà. Alors, autre chose aussi... La participation active, le chapitre 30. Pour promouvoir la participation active, on favorisera les acclamations du peuple, les réponses, le chant des psaumes. Vous voyez, c'est là qu'il y a plein de possibilités de choix. Hein. Le chant des psaumes, les antiennes, les cantiques et autres actions de grâce ou gestes et attitudes corporelles. Ces choses-là peuvent varier, peuvent... Bon. On observera aussi en son temps un silence sacré. Et les commissions liturgiques disent que l'on veillera à ne pas rendre si long qu'il devienne insupportable. Bon, ça, ça peut être aussi un excès. Hein. La langue du pays. Je rappelle quand même, oui, j'ai mis en rouge à côté, En se rappelant bien que la participation essentielle, le mot participation, il est souvent mal compris. Hein. Participer, ça n'est pas faire des gestes et des choses et des chants des chenilles du bonheur pour participer. Non, la participation essentielle, c'est de vivre chaque instant de la messe, c'est de s'accrocher à chaque phrase, comme j'ai essayé de vous le dire de toutes les manières tout à l'heure. C'est ça la participation essentielle. On peut faire des tas de choses, trouver des chants absolument incroyables qui vous mettent dans une transe formidable, en disant « Oh, la messe était une participation formidable ». Peut-être, à condition que ça illustre ce qu'il y a dans le cœur et qu'on est en train de vivre. Si c'est seulement une manière de se distraire, ce n'est pas une vraie participation. Et ça, c'est bien difficile à faire comprendre aussi. La langue du pays. Alors là, on passe à la page 73, vous vous rendez compte. C'est donc là le chapitre 54. Vous savez, il faut la lire tout entière. Hein. Moi, je suis en train de faire quelques petites incursions. Hein. On pourra donner la place qui convient à la langue du pays. Ça, c'était quand même un immense changement. Hein. Ça, c'était le gros changement aussi. Hein. Dans les messes célébrées avec concours du peuple, surtout pour les lectures et la prière commune, et selon les conditions locales, etc., selon l'ordinaire du lieu, bon. On veillera cependant à ce que les fidèles puissent dire ou chanter ensemble en langue latine aussi, les parties de l'ordinaire de la messe qui leur reviennent. C'est-à-dire en gros, bon, je ne dirais pas le Kyrie puisque c'est du grec, mais il en fait partie quand même, le Gloria, le Sanctus et l'Agnus, et le Credo. Que les gens puissent, quand on se retrouve à Lourdes dans une célébration mondiale, c'est drôlement formidable quand on chante d'un seul cœur le Credo en latin sur le même thème. Comment faire si chacun en est resté uniquement sur sa langue, hein ? Ce qui ne veut pas dire qu'il faut fourrer du latin partout. Hein ? On n'en est plus là. Mais la langue latine propose aussi des chants, des antiennes, des introïtes qui peuvent aussi aider à prier. Il n'y a pas que les chants spasmo-cavaleurs hein, qui sont expressifs de la foi. Hein. Voilà. Un dernier... Je termine par là. J'ai encore le temps. J'ai encore 5 minutes, il m'en faut pas plus. On a parlé des gestes tout à l'heure, alors ça c'est un peu plus perso. Le geste de paix qui me crucifie si souvent. Je vous expliquerai pourquoi. Le geste de paix. Alors, je suis sans doute pas le seul crucifié parce que apparu le 12 juillet 2014 une lettre circulaire de la Congrégation du culte divin. Congrégation du culte divin. C'était pas un prêtre râleur qui avait fait ça dans le coin d'un bureau pour embêter le monde. Hein. La Congrégation du culte divin, c'est donc pour le monde entier. Hein, qui rappelle un certain nombre de choses. Bon, cette circulaire est assez... comme sont souvent les circulaires de Rome. Et heureusement, Monseigneur Raffin, qui était l'évêque de Metz, a rassemblé ça avec d'autres mots, et puis il a résumé, et moi je vous donne 2-3 petites choses là-dessus pour vous aider à réfléchir sur ce plan. D'abord, reconnaître la grande dignité de ce geste. Il est clairement établi que le rite de la paix possède en lui-même une signification profonde de prière et d'offrande de la paix dans le contexte de la célébration de l'Eucharistie. Lorsque l'échange de la paix est accompli de la manière qui convient entre les personnes qui participent à la messe, le sens et l'expression du rite lui-même en sont enrichis. Par conséquent, ça va paraître peut-être contradictoire, mais ça ne l'est pas. Par conséquent, il est très légitime d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'inviter automatiquement à échanger le geste de paix. On peut l'omettre et parfois il doit être omis. Bon, moi j'ai rajouté, en le vivant effectivement de manière automatique, eh bien on le dénature peut-être un peu. Ça devient un réflexe. Mais dans la liturgie, il ne faut pas qu'il y ait trop de réflexes. Bien sûr qu'il y a des choses automatiques, un petit peu, on est habitué. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bon, c'est sûr. Mais pour le geste de paix en particulier, ça serait mieux quand même quand ce n'est pas automatique. Or, comment le rendre plus signifiant s'il est là tout le temps ? Alors, moi, je le dis ici, je suis séparé par une table, donc je suis en sécurité. Mais je n'ai jamais essayé de le dire trop fort dans aucune des paroisses dans lesquelles je suis passé, par crainte de me faire casser la figure à la sortie. Hein, parce qu'il y en a pour lesquels c'est... Oh là là, c'est tout à fait... ça, c'est... On peut tout changer, mais sauf le geste de paix, parce que ça, c'est quelque chose de concret du réel vécu, comme je disais tout à l'heure. Hein. Or, quand le Seigneur dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne », il faut bien s'en rappeler. Que le geste de paix, d'après ce que dit ici Mgr Raffin, qui reprend la lettre de la congrégation, ce n'est pas à la manière du monde qu'il s'agit de le donner. Nous ne sommes pas simplement dans un geste de convivialité. Ah, t'es là, oh, c'est bien que tu sois là. Bon, c'est pas ça le geste de paix de la messe. Hein. Un collègue humoriste allait plus loin en disant « Le geste de paix, en donnant les instructions à ses fidèles, le geste de paix ne ressemblera pas aux manifestations d'une équipe de foot venant de marquer un but. » Vous avez vu ça à la télévision. Je retire quand même un adjectif. Si vous voulez que je vous le dise tout à l'heure, je vous le dirai à l'oreille pour ceux qui me l'ont demandé, qui me le demanderont. Voilà. Ça n'est pas simplement un geste de convivialité. La paix du Christ, c'est quelque chose qui comporte... Bon, d'abord, qui s'adresse à n'importe qui, c'est-à-dire la personne, je la connais. Combien de fois on a entendu dans les débuts de la mise en œuvre de ce beau geste de paix, combien de fois on a entendu « Et pourquoi je le ferais à côté d'une personne que je ne connais pas ?» Eh bien, justement, c'est parce que je ne la connais pas et que je reconnais en elle un frère ou une sœur dans le Christ que je vais lui donner le baiser de paix. Et non pas une congratulation footballesque, hein, comme on voit quelquefois. Hein. Alors, là, je termine vraiment. Une petite explication là-dessus. Sur la base de ces réflexions, dit le père Raffin, il sera nécessaire qu'au moment du signe de paix, on veille à proscrire définitivement certains abus comme 1. L'introduction d'un chant pour la paix qui n'est pas prévu par le missel romain. On ne fait pas ça ici, mais je l'ai vu ailleurs. Surtout dans les moments d'avant, le temps de ceci, le temps de cela, où il faut toujours inventer quelque chose de nouveau, je l'ai vu. Hein ? Pour les fidèles, le fait de se déplacer pour échanger entre eux un geste de paix. On ne se déplace pas. Non seulement les laïcs, mais le prêtre. Troisièmement, pour le prêtre, le fait de quitter l'autel pour donner la paix à quelques fidèles. Et il faut croire que ça va encore plus loin, parce qu'il rajoute en quatrièmement, le fait que le geste de paix soit l'occasion d'exprimer des congratulations, des vœux de bonheur ou des condoléances aux personnes présentes. Ce n'est pas le lieu. Donc, alors là, moi, je parle que en mon nom personnel. Je pense que si le geste de paix n'était pas si automatique, et je parle du dimanche, hein, mais qu'il soit introduit, bon, assez fréquemment, bien entendu, il s'agit... Bon, il y a des communautés qui ne le font jamais. Je me suis beaucoup, toutes ces dernières années, déplacé dans des communautés religieuses. 9 sur 10 ne le font pas. C'est quand même un comble. Dans des communautés religieuses, de moines ou de religieuses. Les excès deviennent très vite ridicules. Ou dommageables. Voilà, alors ça, je vous le rappelle, hein, c'est moi. Mais bon, je ne pars pas quand même de mes simples intuitions. Vous voyez que d'autres y ont pensé avant moi. Monsieur le directeur, j'ai fini.
C'est parfait. Si c'était moi le directeur, je ne sais pas.
Oui.
Ce fameux geste de paix, parfois, il y a quelques années, il a été mis à un autre moment qu'au moment où il doit être fait.
Eh bien non. D'après ce qu'on nous dit ici.
Ça s'est fait, oui. Parfois.
Seigneur Jésus, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est à ce moment-là qu'on le dit. Hein? Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Ça va venir dans la même foulée.
Comment s'appelle ce cardinal?
Pas le cardinal Sarah.
Vous voyez, promener.
On voulait promener, c'était beaucoup dire.
Il a prié.
Non, non, vas-y, parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Vas-y, Ambroise.
Le pape a simplement modifié quelque chose dans la question des traductions liturgiques. Il s'en est expliqué d'ailleurs dans une lettre qu'il a demandé à ce cardinal de publier pour tous, ouais. Et qui explique les procédures de traduction. Dans lequel Rome a toujours un rôle, mais dans une perspective non pas seulement de décentralisation, mais peut-être parfois de précision qui n'implique pas des complications extrêmes par des allers-retours incessants, il a rappelé un certain nombre de compétences des conférences épiscopales.
Oui. On trouve d'ailleurs dans.
Ce n'était pas de telle ou telle traduction, mais c'était plus un document d'ordre général sur les compétences
moi,
de.
Moi, j'ai compris que ça donnait une plus grande liberté
aux. Oui.
Ça s'est toujours passé dans ce sens-là. La question, c'était la validation finale de la manière dont la traduction était corrigée. C'est plus dans ce sens-là. C'est oui, de fait, il a rappelé aux conférences qu'elles avaient un vrai pouvoir dans ce domaine et qu'elles devaient l'exercer en communion avec Rome.
Voilà. Et ça, c'est vrai aussi de cette liberté des conférences épiscopales sur un certain nombre d'autres sujets dans la liturgie. Hein. La conférence épiscopale jugera si telle ou telle chose est bonne pour sa région.
Comme du Notre Père, le 3 décembre.
Comme, oui, voilà.
Comme les évêques ont demandé que dans toutes les paroisses, on dise plus ne nous soumet pas, mais ne nous laisse pas entrer en tentation.
Ne nous laisse pas entrer. Voilà. C'est marqué dans le Magnificat.
Voilà, à partir du premier dimanche de l'Avent, ne nous laisse pas entrer en tentation. Il faudra s'y habituer, mais c'est quand même un progrès. Si. Oui, Jean-François.
Est-ce qu'on ne devrait pas inciter les fidèles à faire attention aux gestes lui-même? Parce que souvent, on donne la main, comme on disait, bonjour, comment ça va? Mais bon, il y a d'autres façons de faire. Je sais qu'on peut prendre la main de l'autre dans les deux mains.
Oui.
On peut aussi se donner une
accolade. L'accolade.
Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas revenir, enfin, inciter à.
Donner, oui, quelques exemples de manière de. Je ne sais pas. Bon, écoutez, moi je vous ai dit un certain nombre de choses. J'ai mes deux collègues qui vont passer derrière moi d'ici juin. Ils aborderont des choses que je n'ai pas abordées. Et c'est tout à fait nécessaire parce que je vous ai dit que quelques petites choses que j'ai essayé de rendre fondamentales. Hein.
Merci.
C'est tout? Pas d'autres questions ?